Ouais, j'ai essayé de.
Pour la voix forte, il y a une pièce de vent, donc ça
J'ai essayé. Je sais pas comment d'ailleurs je dois prendre l'extinction de voix, si je dois le prendre de manière très personnelle. Donc, ça devait être un dialogue. Donc j'avais laissé très ouverte la proposition pour laisser toute la place à ce dialogue. On va tout de même essayer. Peut-être que tu pourrais me murmurer à l'oreille quelque chose et moi je lui dirais ce qui fait que ça multiplie par deux notre temps. Et donc,
Tu
finalement, il n'y
poses
aura que
des
toi qui
questions,
parlerais.
après tu réponds, tu vas deviner la question.
Globalement, tout de même, pour un peu introduire ça, et puis parce que là, on change un peu de régime, puisque moi, je ne parle pas du tout comme théoricien ici, mais comme artiste. Au moment où Bruno Trentini et Anna Longo ont pris contact avec moi pour me parler de ce thème du paradoxe de la finitude, moi, je n'avais pas vraiment traité de ce sujet. Ce n'était pas un concept que je connaissais vraiment. Mais quand ils m'en ont parlé, tout de suite, une espèce de corpus, c'est-à-dire un agencement de différents travaux artistiques que j'avais réalisé. Comment dire? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Puisque ça existe, autant l'utiliser. Un certain corpus a commencé à s'organiser, et il y a un concept assez proche, finalement, sur lequel j'avais un peu écrit, qui m'avait intéressé, qui était le concept d'infinitude, donc espèce de mélange entre infini et finitude, que je côtoie depuis quelques années, parce que tout simplement, ça me permettait de décrire des phénomènes qui sont à l'œuvre dans mes travaux, qui me semblent être à l'œuvre, et que je vais essayer de passer un petit peu en revue. Alors, on avait fait déjà un tri, peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire finalement,
Ouais, mais
ce
ça, on
tri.
avait tout le temps.
Donc voilà, et puis dans ce dialogue, bien évidemment, dans le rapport complexe, historique pour le coup, entre l'art et la philosophie, dans le rapport conflictuel parfois entre l'art et la philosophie. Effectivement, dans ce dialogue, il y a l'idée de ne faire ni le commentaire ni la justification. Et les travaux que je vais vous montrer, c'est pas des illustrations de concepts philosophiques. C'est vraiment plutôt des univers parallèles qui se touchent d'un même et qui se suivent toujours. Donc je vais passer comme ça en revue assez factuellement des travaux artistiques qui peut-être, d'après ce que j'ai entendu des différents intervenants, j'étais pas là ce matin malheureusement, correspondent assez bien à des catégories finalement qui ont été élaborées, mais qui enracinent ces catégories dans des phénomènes sociaux, et en particulier Internet, qui est tout de même ma base, qui a été longtemps ma base de travail, et qui a été mon obsession. Et Internet, me semble-t-il, par rapport à ce paradoxe de la finitude, c'est-à-dire de l'expérience d'un certain infini dans la finitude, au cœur de la finitude, à mon avis, est un phénomène réel, matériel, concret. Donc, un premier projet que j'avais fait il y a déjà 10 ans, qui s'appelait Le Registre, donc je vais être assez factuel, pas très théorique, où il s'agit d'un petit logiciel que j'avais programmé, qu'on appelle un mashup, donc qui permet de détourner un flux qui vient d'Internet. Donc là, il s'agissait d'aller chercher sur Twitter des sentiments, des posts avec des sentiments. Donc j'avais une liste de 200 sentiments. Et ça allait les chercher automatiquement. Ensuite, ça les mettait ensemble. Donc, il y en avait un par heure. Non, il n'y en avait pas un par heure. Il y en avait 100 par heure. Donc, c'était la vitesse. Donc, cette vitesse, c'est 100 sentiments par heure. C'était un peu la vitesse sentimentale qui avait été élaborée. C'est ensuite automatiquement mis dans un fichier PDF qui est envoyé à une entreprise d'impression à la demande, dont je ne citerai pas le nom, donc qui permet de produire un livre matériel. Et c'est imprimé automatiquement. Donc on passe d'Internet à un livre matériel dont vous voyez là la forme, donc sous la forme d'une bibliothèque. Donc il y a un sentiment par page. Chaque livre est constitué de 100 pages. Et la bibliothèque est constituée de 24 livres. Donc environ 2400 sentiments. Donc c'est une journée de sentiments sur Internet. Et je pense que dans ce paradoxe de la finitude, en tout cas moi c'était une de mes intuitions, Internet est une expérience débordante d'une forme d'infini, alors qui est finie bizarrement, puisque c'est délimité matériellement, mais qui du fait que Internet grandit plus vite que notre capacité à le parcourir, nous donne une expérience quotidienne dans le monde du travail, quoi, très concrètement, et pas seulement dans le monde théorique, dans le monde du travail de cet infini.
Ça concrétise aussi la bibliothèque de Borges pour revenir à l'exemple de Borges qu'on avait introduit tout à l'heure avec Casanugas. On a ces livres, cette infinité de livres qui sont produits plus ou moins par hasard.
Alors, Ce qui, c'est vrai que l'exemple de la bibliothèque de. Bon, l'exemple de Borges est un grand classique. Je crois que c'est intéressant par rapport à Borges, c'est que ça indique aussi le fait que notre époque, comme nulle autre, a un rapport à l'histoire assez particulier, puisque habituellement l'histoire c'était le partage entre le mémorisable et l'oubliable. Donc on oubliait la grande majorité des choses, les archives étaient assez limitées, et qu'il y a une hypermnésie de notre époque qui fait que l'existence des anonymes que nous sommes est enregistrée. Donc ça devient une réalité sociale qui est assez différente du modèle théorique et poétique de Borges, mais qui devient une modalité opératoire de la société, et qui vient jusqu'à transformer ce que notre relation à l'historicité, c'est-à-dire à la manière qu'on a nous-mêmes de se raconter l'histoire, puisque l'une des questions qu'on se pose tous, c'est que feront les historiens dans 200 ans de notre époque? Ils vont être bien embêtés. Parce que la quantité de données, alors est-ce que les données sont des archives? Est-ce que ça pose plein de questions? Mais est tellement incomparable en quantité par rapport à toutes les époques qui nous ont précédées, comme nulle autre pareil, qu'on peut anticiper, peut-être qu'on reviendra après sur cette question de l'anticipation, sur la manière dont l'avenir va nous raconter.
Oui, ça fait partie du paradoxe de la finitude, ça aussi. C'est-à-dire que les plus on produit l'histoire, les plus difficile à produire dans l'histoire. Désolé, j'arrive pas trop.
Alors, je vais passer à un deuxième projet que tu voulais pas que je mette, mais finalement, j'ai bien fait parce qu'on a un peu le temps. Puis comme ça, on voit des images et tout ça, ça bouge. Donc, c'est une installation donc, qui date de la même époque, qui est donc, dont le titre est une célèbre chanson des années 60, interprétée d'abord par Tommy Young, et puis qui a été après repris par plein d'autres auteurs. Donc, il s'agit d'un scanner d'empreintes digitales, bien connu, qui sert encore aujourd'hui à l'identification des gens, c'est-à-dire à la stabilisation de la finitude, puisque nous portons tous un petit dessin sous les doigts. Et donc, quand le visiteur pose son doigt sur ce capteur, les cernes de son empreinte viennent se disloquer et s'autonomiser les unes par rapport aux autres, et comme flotter, comme les éléments d'un iceberg, et donc interagir les uns avec les autres. Ça forme une espèce de tableau infini, c'est-à-dire qu'on pourrait regarder le mouvement de ces éléments lents et fluctionnels se déplacer à la surface de l'écran pendant des dizaines d'années, des centaines d'années, tout dépendant de l'état du matériel, jusqu'à ce qu'un nouveau visiteur pose le doigt et interrompe le processus, et puis il y a une nouvelle empreinte, et ainsi de suite. Alors pourquoi moi je voulais, contre ton avis, j'ai gardé finalement, parce que...
Les liens, c'est pas si direct que ça, quoi.
Alors pour moi, le lien est très très direct au sujet qui nous concerne là, parce que la finitude, ça a aussi à voir avec une inscription politique et biologique de contrôle, que depuis 2001, explosion des systèmes d'identification et donc de l'identification des finitudes que nous sommes, c'est-à-dire des corps, pour le coup, dont on a parlé précédemment, et que ce qui m'amusait là, et c'était au moment où il y avait, je pense, le début des débats sur l'identité nationale, une espèce de chose très très étrange. On pourrait parler de finitude nationale, je ne sais pas très bien, mais bon. Ça me semblait intéressant d'utiliser des technologies qui servent habituellement à l'identification pour exactement l'inverse. Et c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire cette identité fluctionnelle en flux me semblait beaucoup plus proche de la réalité que nous expérimentons chacun que les principes d'identification et de stabilisation de l'identité auquel on est soumis chacun.
Donc chaque fois, ça décompose de manière différente.
Alors chaque fois, là, on pourrait peut-être parler justement de cette question d'aléatoire informatique qui est très compliquée parce que bon, il y a beaucoup de gens qui estiment que l'aléatoire informatique est un faux aléatoire. Mais effectivement, ça, c'est un modèle physique, donc avec Navier-Stokes et ce genre de d'équations. Et c'est un modèle physique de mécanique des fluides qui fait que ces éléments se déplacent de cette façon-là. Ce qui fait que s'il y a deux fois la même, bien sûr, bon, ça va de soi, s'il y a deux fois la même empreinte, ça ne sera pas la même chose. Il y a aussi un autre élément, c'est que, alors pour moi, qui est très important, sur lequel je reviendrai, c'est que quand bien, et qui est d'une banalité sans nom, hein, de dire ça, c'est très banal, c'est que si personne n'est là, si l'image est sans témoin, le mouvement continue. C'est-à-dire que l'image peut être sans témoin, et il n'empêche qu'elle, je vais y revenir après, mais elle existe.
Est-ce qu'elle s'appelle à l'envers ? Comment reconstruire l'empreinte initiale à partir de l'empreinte.
J'ai pas prévu ça. J'ai pas prévu ça. J'étais plutôt dans la dislocation pour le coup et dans la destruction.
Donc l'identité reste détruite.
Oui, toujours. Okay. Toujours. Ensuite un autre projet donc qui est encore un mash-up, donc un détournement d'un service sur internet. Enfin, un détournement. Pas exactement un détournement, mais en tout cas une captation de ce qui se passe sur Internet. Donc, c'est un petit logiciel qui, très simplement, va dans Google Maps, donc la version satellitaire sans légende, et qui tire un endroit totalement au hasard, et qui va passer comme ça d'un endroit à un autre endroit au hasard, ce qui fait que on n'est pas, selon le zoom, le niveau de zoom où on est, on va reconnaître ou pas l'endroit où on est, et aussi le fait que le temps de chargement fait qu'on passe d'images assez pixelisées et abstraites à des images qui progressivement s'affinent et deviennent de plus en plus compréhensibles. Ce qui m'intéressait là, on a parlé du CERL et de la naissance de la géométrie, mais il y a aussi cette question de l'invention de la géométrie, mais il y a aussi cette question de la Terre chez Husserl. C'est comment les États qui avaient comme l'une de leurs fonctions, c'était de cartographier la planète, comment Google, qui a une entreprise ontologique, clairement, de massive, qui veulent prendre en charge tous les secteurs de la réalité, comment la cartographie de la Terre a été déléguée à une entreprise privée, et la capacité qu'on a de se promener à l'infini sur cette surface légèrement abstraite.
Est-ce que ça, il va continuer tout seul, tout le temps, si on le laisse ?
C'est l'une des... en tout cas, dans mon travail, ce qui n'est pas d'ailleurs nécessairement, ce qui n'était pas nécessairement conscient au départ de ma part, c'était le fait que les dispositifs fonctionnent, sont assez autonomes en fin de compte, c'est-à-dire fonctionnent sans personne et varient tout le temps, d'une manière qui est toujours identique. Alors là, on a parlé de vivant, c'est-à-dire de reproduction variable finalement, qui est toujours identique, mais qui est toujours dans le même genre, dans la même famille, je vous en donnerai d'autres exemples, mais qui varie d'une manière qu'on ne peut pas totalement anticiper. Et il me semble que c'est là l'un des grands changements dans le rapport entre l'art et l'infini, me semble-t-il, où auparavant les œuvres étaient infinies parce que l'herméneutique, l'interprétation était infinie, mais le support matériel des œuvres était en général fini, c'est-à-dire qu'il y avait un début, une fin, un cadre, précisément. Donc c'était l'interprétation, notre subjectivité qui faisait que c'était infini, l'interprétation entre les différentes personnes. Ces travaux-là, ils sont matériellement plus proches de l'infini. Je ne dirais pas qu'ils sont infinis, mais ils sont plus proches de l'infini que ne l'ont été, je crois, précédemment, en tout cas d'un point de vue matérialiste, les œuvres d'art. Tu me dis si tu veux, je passe à la suivante. Ou... Alors, peut-être qu'on va mettre de la musique là, mais non, on n'a pas de musique.
Non, je ne sais pas s'il y a de la musique.
Alors, mais donc ça c'est un projet donc de 2009 également qui s'appelle Capture. Donc c'est un projet qui part de du fait que les industries culturelles, c'est-à-dire le cinéma et l'industrie musicale, n'arrêtent pas d'annoncer leur mort parce que les gens viennent télécharger illégalement des fichiers. Donc le peuple vient les voler et ils vont mourir. Et avec eux, les artistes soi-disant qu'ils représentent. Et ils n'arrêtent pas de mourir, c'est-à-dire ils ont un peu une logique zombie, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas d'annoncer leur mort et de s'effrayer de leur mort, mais ils n'arrêtent pas de survivre à cette mort-là. Donc ils n'arrêtent pas de ressusciter, finalement. Et donc Capture, c'était un projet qui consistait à proposer une solution pratique à ce problème économique du vol par le peuple des industries culturelles. Donc il s'agit d'un groupe de pop, rock, musique tonale, mélodieuse, qui est tellement productif que vous avez beau le voler, vous téléchargez une musique de lui, 10 autres musiques vont être produites. Et donc, la consommation ne pourra jamais rattraper la production. Donc c'est submerger le consumérisme capitaliste par un productivisme d'un nouveau genre, puisque finalement dans le capitalisme, alors là on est aussi dans des questions d'infini et de faux infinis finalement, de manière très très, alors pour le coup, liée à l'infrastructure, à la logistique, à des choses un peu, voilà, on a beaucoup focalisé sur la finance ces dernières années, mais la question de la logistique et de la production matérielle des biens, c'est un vrai problème. Et parce qu'il suffirait d'avoir une production vraiment intense et vraiment en grand nombre pour que le consumérisme s'effondre sur lui-même, parce que la production actuelle est en fin de compte fondée sur un faux effet de rareté, en fin de compte.
Et donc là, c'est les questions d'accélérationnisme.
Alors, à l'époque où j'avais fait ce projet, où j'avais commencé ce projet, qui était un projet de recherche aussi, en recherche-création au Canada, j'avais pas, quand j'avais déjà lu Nick Land, c'est-à-dire la partie droitière de l'accélérationnisme, mais pas l'autre partie gauchère de l'accélérationnisme, même si j'étais un grand lecteur de Lyotard. Donc c'était un peu avant que le manifeste accélérationniste, je pense, sorte. Mais c'est vrai, quand j'ai lu le manifeste accélérationniste, et ça c'est intéressant parce que ça montre des convergences, on parle beaucoup de convergences en ce moment des luttes, mais ça montre des convergences d'époque entre l'art et la théorie. En lisant le manifeste de Nick Land et de Alex William et Nick Chesnek, c'est vrai que le projet Capture rentrait complètement là-dedans, c'est-à-dire dans une logique anticapitaliste, mais plutôt liée à l'accélération. C'est-à-dire si on pousse au maximum le potentiel et si on change de logique, on peut le submerger de l'intérieur, parce que le changer de l'extérieur, c'est à mon avis un aveu d'échec. Alors peut-être que si je mets le son à fond.
Je sais pas.
Ouais, ah oui, on va attendre.
Écoutez les chances.
Donc, en fin de compte, tout est généré.
Ça commence à générer.
Tout est généré et ça générait aussi du merchandising, des t-shirts, des textes, des vidéoclips. Donc. Vous entendez après ? Bon, donc la voix, c'est une voix de synthèse chantée, les paroles sont générées. Et c'était un petit détail. C'était très important dans ce projet de créer de la musique pop, hein, tonale, parce que générer de la musique atonale, contemporaine, c'est extrêmement facile. Générer de la musique pop, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est ce que j'ai découvert. Tout le monde m'avait dit, c'est très facile de générer de la mélodie. J'avais parlé avec plein de gens de l'IRCAM, c'est très facile. Personne n'y arrivait, alors que de la musique atonale, c'est beaucoup plus facile. Tout simplement, alors là, pour une raison qu'on a vu précédemment, c'est parce que dans la musique pop, le niveau de va, en fin de compte, dès que ça commence à devenir un peu aléatoire, ce n'est plus de la musique, ça devient de la musique contemporaine. Disons, quand on change un peu trop les notes, ça devient dissonant et on reconnaît. Donc le spectre de variabilité est très limité par rapport à, alors que la musique contemporaine, pas tout est permis, mais le contrat de départ qu'on va voir à un concert de musique contemporaine, c'est que on peut entendre tout ce qu'il est possible d'entendre, alors que notre niveau d'acceptabilité sur la musique pop est très très limité.
Et donc la machine produit des machines, produit de la musique toute seule.
Oui.
Est-ce qu'elle la produit toujours correctement? Est-ce qu'il y a un contrôle, une sélection qu'il faut opérer? Est-ce qu'elle opère toute seule?
Alors, il y a des morceaux qui sont réussis, d'autres qui sont ratés. Et l'hypothèse, c'est que quand il y aura un très très bon... Parce que c'est un peu nul, en fin de compte. La musique est un peu nulle, c'est un peu moyen. C'est de la musique moyenne, c'est un peu le goût vanille-fraise. Et l'idée, c'est que quand il y aura un très très bon morceau, personne ne l'entendra. C'est-à-dire qu'il n'y aura toujours pas de témoin. Et c'est un peu comme en improvisation de jazz. C'est-à-dire qu'on attend toujours dans les improvisations du jazz le moment où il va se passer cette chose-là, tant attendue. L'idée qu'il n'y ait pas de témoin, c'est un élément aussi important. Globalement, jusqu'à présent, ça a produit, je crois, 120 années de musique, donc qu'il est possible d'écouter. Et quand on télécharge un morceau sur le site, il s'efface du site. Et donc, vous en êtes le seul dépositaire. Et donc, en tant qu'auditeur, vous devenez aussi diffuseur potentiel.
D'accord.
Ce qui veut dire aussi que quand on rencontre quelqu'un habituellement et qu'on a entendu un morceau de musique, on lui dit « Est-ce que tu l'as entendu ce morceau ?» On peut partager nos goûts. Là, il n'y a que des séries infinies avec des éléments uniques, ce qui nous rapproche un peu du vivant, la question du partage du goût, du partage du sensible, du partage de l'universalité du goût se pose complètement différemment. Et c'est peut-être là où on peut aussi revisiter certaines théories philosophiques de Kant à Rancière, qui sont aussi, dont l'angle mort est un système de production matérielle des biens culturels, peut-être.
Donc, ça peut être aussi la machine qui change les goûts, parce que ça ne répond pas parfaitement au goût, c'est-à-dire que les morceaux ne sont pas magnifiques, c'est-à-dire quelque chose qu'on a envie de partager parce que c'est beau, on a plutôt envie de les partager parce que c'était produit d'une certaine manière. Mais est-ce que ça peut influencer aussi
C'est une vraie question. C'est une vraie question qu'avait traitée, je pense, Pierre dans son livre sur le cerveau, sur les lecteurs de cerveau, les lecteurs neurologiques, c'est-à-dire la manière dont une production technique peut modifier notre manière ou de percevoir ou de penser, la manière dont c'est performatif, finalement, sur les questions sur lesquelles peut-être on reviendra après. Alors, le principe de ce projet, c'était plutôt d'avoir un goût vanille-fraise. C'est-à-dire, le goût vanille-fraise, c'est le goût commun, parce que c'était un peu le défi, justement, d'avoir une culture très moyenne. Mais effectivement, la question de savoir si la production machinique peut devenir un peu alien et introduire de nouveaux goûts esthétiques, c'est une autre piste.
Et faire adapter, en tout cas.
Tout à fait. Et c'est une piste qui a été beaucoup explorée, je pense, dans la musique au XXe siècle, dans son influence, dans son rapport à la technique, c'est-à-dire des nouvelles façons d'écouter et des nouvelles sensibilités liées à des développements techniques, des choses qu'on ne croyait pas écoutables, qui sont rentrées dans le champ de l'écoutable ou dans le champ de l'art contemporain, le fait que l'extériorité est rentrée dans ce qui était admis ou pas. Là, le fait que cette extériorité puisse être introduite par un mécanisme en partie automatisé, c'est une vraie question.
Parce que c'est difficile, voilà, de excéder la possibilité d'absorption du système, c'est quelque chose que les systèmes n'aiment pas, quoi.
Quel système ?
Les systèmes capitalistes, économiques, qui devraient être, voilà, saturés
alors,
par la production, c'est une production qui n'est pas au goût.
Alors, moi,
ça devient compliqué, donc c'est une question.
Alors, j'ai un autre point de vue, je pense que le système, alors pas capitaliste, néolibéral, ouais, tel qu'il existe aujourd'hui, qui a un peu changé, adore l'extériorité, adore ce qui est différent, adore les marges, n'a aucun mal avec ça. Et d'ailleurs, dans beaucoup de travaux que j'ai utilisé ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des plateformes ouvertes qui permettent d'accéder à des informations. Par exemple, Twitter, ils ont une API qui nous permet d'afficher ailleurs les posts de Twitter sur son propre ordinateur ou l'application Google Maps, on peut l'afficher ailleurs. Donc, le détournement, cette logique du détournement qui a été tellement privilégiée par les situationnistes, le néolibéralisme adore le détournement parce que ça lui permet de régner encore plus, c'est-à-dire de s'étendre encore plus, ce qu'avait un peu décrit Galloway et Tucker dans The Exploit, c'est-à-dire cette nouvelle figure de la domination qui n'est pas hiérarchique, mais en rhizome, finalement, et qui est une autre figure de la domination. On va revenir à Quentin Meillassou et après la finitude. Donc Tello Fossile, qui était, donc vous voyez là une petite partie, c'était une exposition qui avait eu lieu au Musée d'Art Contemporain de Taipei. Donc c'était une fiction qui consistait à partir du principe que l'espèce humaine va disparaître, que l'extinction de l'espèce humaine est la seule chose dont nous sommes sûrs, et que cette extinction n'est pas nécessairement déterminée par notre action. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour des raisons... on n'est pas nécessairement responsable de l'extinction de l'espèce humaine. On pourrait, comme on pourrait ne pas être responsable de l'extinction de l'espèce humaine. Que d'ailleurs, il y aurait beaucoup à interroger sur ce rapport qu'a l'écologie et le thème de l'anthropocène. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à l'infini, finalement, à quelque chose qui est après nous, et qui toujours, jusqu'à la destruction, se rapporte à l'être humain, comme s'il ne pouvait y avoir de destruction qu'anthropologique, finalement. Et que même jusqu'à la fin, et là on retrouve des thèmes...
Au-delà des
c'est ça. Qu'on n'arrivait pas à penser l'extinction de l'être humain, mais une extinction non anthropologique, ou non anthropomorphe. Donc là, l'idée, c'est de partir du principe que l'espèce humaine va disparaître, parce que les espèces naissent et disparaissent, bon, c'est de la même manière que les individus disparaissent, ben, les espèces disparaissent aussi, bon, c'est rien de grave à ça. Et que une autre espèce, organique, machinique, peu importe, inconnue, arrive sur Terre et fouille la Terre, creuse la Terre et découvre les traces de ce que nous avons été, avec une surreprésentation de la dernière période, c'est-à-dire de la période industrielle, puisque nous avons produit une grande quantité à cause de...
Ça va arriver bientôt.
Oui, une grande quantité d'objets. Du fait de l'industrialisation, Donc on est surreprésenté, et que ces objets, comme l'ont montré pas mal de chercheurs actuellement, viennent de la Terre. En fait, ils sont liés, le plastique, le métal, tous les objets dont on produit viennent de processus géologiques super longs, qui prennent des millions d'années, et reviennent bien sûr à la Terre. Ils ne disparaissent pas comme ça. Ils sont réenfouis dans la Terre, ils reviennent dans des cycles géologiques. Donc, cette autre chose non humaine viendrait creuser. Donc là, ce que vous voyez, c'est un champ de fouilles archéologiques. Peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas, éteindre la lumière. Je ne sais pas si on... Bon, bref, peu importe. Bon, c'est pas très... bon vous voyez à peu près globalement, mais vous n'avez pas une idée des dimensions, mais c'était un dispositif qui faisait environ 25 mètres de long. Qui fait environ 25 mètres de long, donc qui est assez conséquent. Et avec ce qu'on voyait en arrière-plan, qui était la surface de cette planète désertique, alors là c'est un peu bloqué, mais ça va revenir, qui est devenue la Terre, qui est aussi générée et sur lequel on n'arrête pas de passer. Là c'est une surface qui est générée complètement algorithmiquement, donc une planète qui devient infinie parce qu'on se déplace sur les détails. Et cette figure, c'est aussi dans la production d'un artiste, il y a des choses assez intuitives qui ne sont pas pensées avant d'être faites. C'est cette figure de la caméra virtuelle qui se déplace sur un paysage indéfiniment. C'est quelque chose qui revient très, 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 très fréquemment.
Mais les paysages précèdent son exploration. Est-ce que l'exploration est là?
Non, en fin de compte...
Le paysage émerge
ensemble. Ouais, en fin de compte, le paysage est généré au moment où où la caméra se déplace, parce que tout simplement, dans ce type de système, si on génère complètement l'espace, l'espace est assez limité. Donc, en fin de compte, à mesure qu'on avance, il y a un autre espace qui se crée, et ainsi de suite, indéfiniment. Là encore, le fait que c'est sur ces choses-là, c'est des questions assez classiques, hein, et puis il y a une histoire de ça, on pourrait remonter aux cathédrales de Rouen, à la mise en série d'œuvres qui sont en même temps identiques et dissemblables. Alors, j'arrive jamais à prononcer son nom, mais l'artiste taïwanais qui faisait les one-year performances, c'est-à-dire les performances pendant une année. Warhol avec Empire, bien sûr, le film de 8 heures, donc qui donnait la solidité de l'Empire State Building à un film, c'est-à-dire qui rend le film invisible, quoi. On ne peut pas le voir jusqu'au bout, puisque c'est un plan fixe sur un bâtiment de New York, ou des œuvres de Bruce Nauman, etc. C'est-à-dire, cette tendance dans le champ de l'art à faire des images qui dépassent la durée, notre capacité d'attention et de perception, finalement. Et pas nécessairement dans une logique du sublime, à mon avis, mais dans une logique un peu de l'indifférence et de l'ennui, et de quelque chose qui est toujours identique et un peu dissemblable à chaque fois. Et cette différence à la marge, dont on a un peu parlé sur le vivant, finalement.
Oui, c'est la logique.
Cette différence, cette répétition, pour utiliser un gros mot, c'est des choses qu'on retrouve à l'œuvre au XXe siècle, je pense, de manière extrêmement, extrêmement forte, et qui trouve avec ces choses-là une exploration supplémentaire, parce que le caractère infini devient effectif, en fin de compte. C'est ça qui est un peu... Il y a une histoire qui précède, mais ça devient...
Oui, non, mais en plus, tu vois, si on avait un espace et après une caméra qui l'explore, on a la temporalité qui est déjà donnée par la vitesse, tu vois, du déplacement. Lorsque c'est les regards qui produisent son espace, on a la durée du regard qui produit l'espace. Donc, on a une inversion du rapport.
Tout à fait. C'est que le regard, en fin de compte, il est clairement pas humain.
C'est-à-dire c'est la vitesse du regard qui produit l'espace, c'est pas... L'espace qui est déjà donné.
Tout à fait.
Un regard qui se déplace. Donc, on a aussi, je trouve, un changement de la perspective dans temps spatialisé, en temps duré.
Il y a aussi un.
Qui est aussi, voilà, propre à l'art en soi.
Oui.
C'est plutôt une durée qui émerge. Comme...
Alors, on pourrait. J'ai pas abordé ça, mais sur cette question du rapport entre temps et espace en science et en art. En art, on aurait pu largement en parler de ce rapport du temps à l'espace, de la spatialisation du temps et de la temporalisation de l'espace, qui est un vrai problème. En art, il y a une histoire un peu spécifique liée à ça, qui est liée, entre autres, au XXe siècle, au cinéma, et à la très grande puissance du temps dans le cinéma et à la soumission de l'espace par rapport au temps, au cinéma, me semble-t-il, puisque l'espace n'est imaginé qu'au regard d'un temps, puisqu'il y a du hors-champ, on se déplace. Et on voit apparaître des dispositifs où, par exemple, au cinéma, on peut raconter un film avec un début, une fin, un milieu. Mais raconter, par exemple, un site internet, c'est un peu plus compliqué. On peut en décrire l'espace. Et on a une redécouverte de l'espace dans le champ de l'art ou dans le champ des objets culturels sensibles qui est importante. Un autre élément par rapport peut-être à ce travail, puisqu'on parlait de Quentin Meillassou, j'avais pas lu Quentin Meillassou, parce que moi, je vivais pas en France à l'époque. Et puis j'étais complètement passé à côté. J'avais pas lu Quentin Meillassou au moment d'élaborer ce projet, et donc c'est au moment d'élaborer ce projet que je lis Quentin Meillassou et je me dis oh nom de Dieu. Même si c'était peut-être pas la chose à faire, bon c'était tout de même un petit peu un choc vu la nature de ce projet. Le fait qu'aujourd'hui dans le champ culturel l'anticipation de la disparition est une question fondamentale. C'est une autre forme du paradoxe de la finitude. C'est-à-dire, est-ce que la pensée va être une pensée qui pensera après la catastrophe? Est-ce qu'il y aura encore de la pensée humaine après la catastrophe? Et le fait de maintenir à tout prix les conditions de la pensée, fût-ce sans corps, sans le même hardware, comme il l'appelle, après la catastrophe, c'était une question qui avait été largement et incroyablement élaborée par Lyotard dans L'Inhumain, dans un texte qui s'appelle « Si l'on peut penser sans corps », qui est un texte de 85, qui est hallucinant, tant il est une réponse par anticipation au singularisme de Ray Kurzweil et à toutes ces théories absolument théologiques. Alors là, pour le coup, on est en plein dedans, mais avec une théologie, une drôle de théologie inversée. Et notre capacité en tant qu'espèce à accepter qu'il n'y ait pas de pensée humaine après la catastrophe, après l'extinction, relèverait un peu de l'âge adulte, hein, comme quand on accepte qu'on va mourir et que ça ne nous rend pas moins vivants.
Mais il y a aussi cette idée voilà, qu'on peut penser un monde sans l'humain.
Alors,
on peut penser à un monde dont on n'avait pas expérience. Donc on peut imaginer les fossiles qui sont retrouvés lorsqu'on ne sera pas là. Donc c'est un peu cette idée voilà, de générer quand même une réalité dont on ne fait pas partie.
Je pense que, par rapport à ce que tu viens de dire, je pense qu'on pourrait problématiser l'idée qu'aujourd'hui, maintenant, les conditions de l'exercice de la pensée critique presque suppose cette position, c'est-à-dire suppose que la pensée humaine puisse spéculer sur après elle ou sans elle. Voilà, sur ça je pense qu'on est plutôt d'accord. Un autre projet donc, que je vais rapidement expliquer. Donc là on tombe un peu plus dans mes thématiques actuelles qui sont liées un peu à ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle. Donc j'ai récupéré à l'université de Santa Clara une base de données de 20 000 rêves humains qui ont été récupérés par deux psychologues américains, donc qui m'ont très gentiment donné les sources de les sources SQL de cette base de données. J'ai ensuite j'avais 20 000 rêves de témoignages de rêves qu'ils ont récupérés pendant 30 ans, et ensuite j'ai passé cette base de données dans une chaîne de Markov qui est un système alors là pour le coup très probabiliste, mais qui permet à partir de beaucoup de textes de générer des textes qui ressemblent mais qui ne sont pas identiques. Voilà. Donc ça génère des nouveaux rêves à partir des rêves humains. Donc la machine génère des nouveaux rêves. Et ensuite, dans les petites phrases qui sont en dessous, donc qui sont des rêves, habituellement il y a une voix off, une voix de synthèse qui dit le rêve, qui raconte le rêve. Ça va chercher des mots-clés par rapport à certains critères. Et ces mots-clés ensuite vont sur Internet et vont chercher des images qui illustrent ces mots-clés. Donc on a des illustrations de ces rêves de machines avec nos souvenirs déposés sur Internet, puisque les images, les photographies qu'il y a sur Internet sont nos souvenirs. L'hypothèse là, c'est que les machines commencent à nous rêver, c'est-à-dire que ce qu'on a appelé à une époque le big data, dont on ne comprenait pas, moi j'ai jamais très bien compris l'usage, enfin contre la valeur d'usage économique, alors que ça coûte très cher à conserver. Tout se passe comme si les machines pouvaient s'en servir pour faire des choses qui ressemblent à ce qui a été déposé jusqu'à présent, mais qui sont légèrement différents. Voilà. Dans ce dispositif-là, il y a aussi l'idée de la traduction entre l'image et le texte, entre le texte et l'image, je veux dire, pour le coup. Et le fait qu'on s'est tous amusés dans Google à taper un mot et à voir une image, et l'image, bien sûr, ne correspond pas exactement au mot parce que, bon, on sait qu'une image et un mot, ce n'est pas la même chose. Une image et un mot, ce n'est pas la même chose. Et à s'amuser de la différence, de la disjonction entre le texte et l'image, de l'erreur de traduction. Alors, d'une part, dans ce dispositif, c'est autorisé puisqu'on est dans le domaine des rêves. Donc, la disjonction entre le texte et l'image, c'est-à-dire l'illustration, est autorisée puisqu'on est dans le domaine onirique, on est dans le domaine du rêve, et qu'on estime que les disjonctions dans les rêves sont plutôt représentatives d'un excès de sens, c'est-à-dire d'un sens à interpréter, à découvrir, d'un sens latent, donc d'une infinitude du sens, d'une réserve de sens. Et là, il y a une espèce de parallélisme, c'est pas la même chose bien sûr, hein, mais de parallélisme entre les erreurs des dispositifs en réseau, des plateformes comme Google, entre les textes, les images, la manière dont on référencie les images, etc., et nos propres mécanismes mentaux.
Oui, d'interprétation de ce qui... Mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on on rêve parfois d'un futur avec les machines, avec, voilà. Et là, par contre, on obtient le contraire. Donc, c'est aussi les renvers des rêves, des projections qui sont faites.
Tout à fait. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Je reviens à Pierre et à son livre « Lire le cerveau », qui m'avait servi un peu de modèle méthodologique pour plein de choses. Donc, je résume sous ton contrôle avant que tu ne fuis l'un des arguments de l'ouvrage. Donc, sur les lecteurs neurologiques, le grand débat, c'est est-ce qu'on est capable de lire nos pensées. Bon, il y a toujours des articles de presse là-dessus. Et Pierre a une réponse élégante par rapport à ce problème complexe, en disant c'est pas exactement le problème parce que bon voilà, il montre qu'il y a une contradiction dans les termes, mais il dit surtout globalement si on accorde foi dans c'est un système de croyance, un système technologique, si on accorde foi dans les systèmes de lecteurs neurologiques, alors on va changer de comportement et de manière de penser, parce que notre pensée, c'est toujours une pensée de la pensée, c'est une réflexion de la pensée, c'est une perception de la pensée. Et donc il donne l'exemple fictionnel d'un homme et d'une femme qui après avoir fait l'amour la femme, je pense, ou l'homme, je ne sais plus, l'un des deux tend une cigarette à l'autre, et l'autre se dit bah, je devais avoir envie d'une cigarette parce que mon lecteur de cerveau a dit à l'autre personne que j'avais envie d'une cigarette. Donc c'est performatif. Et je pense que ce modèle performatif, il a un immense intérêt, un immense avantage, mais vraiment qui est, dans les débats actuels, qui est vraiment d'une performance politique et stratégique importante, c'est que ça permet de sortir, comme on va le voir ensuite, des débats mimétiques et qui ramènent toujours les technologies du côté anthropologique, qui rabattent toujours les technologies du côté anthropologique, qui empêchent, surtout sur les questions liées à l'intelligence artificielle, qui empêchent de se poser, qui ne voient que la moitié du problème, en fin de compte. Alors, donc, autre exemple. Autre exemple, donc là, c'est Deep Subtitle. Donc, c'est un projet, là, pour le coup, qui utilise des réseaux récursifs de neurones, donc ces fameuses, soi-disant, intelligences artificielles. Donc là, c'est le film Blow Up d'Antonioni, fameux, qui est passé dans un tel réseau de neurones qui essaye d'interpréter le film. C'est-à-dire qu'il analyse l'image en comparant les images qu'il voit aux images qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont taguées. Et alors, il crée les sous-titres. Donc on peut lire comment la machine voit ce film, interprète ce film. Et bien sûr, il fait des erreurs d'interprétation. Par exemple, là, c'est une femme couchée avec son téléphone. Ou à côté, vous n'arrivez pas à le lire, mais c'est un homme avec son téléphone comme ça. Et là, il est en train de se brosser les dents. Bon. Sauf que, quand on regarde l'ensemble du film avec les sous-titres, il y a une autre histoire qui apparaît, qui n'est pas l'histoire originale, et une histoire assez cohérente, finalement, première chose, qui est assez cohérente, qui est une histoire alternative. On repasserait deux fois ce dispositif, je pense, on n'aurait pas le même résultat. Et ce qui fait qu'on pourrait tout à fait s'imaginer un monde où on n'aurait plus à produire des nouveaux films, des nouvelles images, des nouvelles choses. Il suffirait d'avoir une interprétation machinique qui multiplierait, en tout cas, il y a un côté autophagique de la culture, qui multiplierait à l'infini la quantité, en fin de compte.
Parce qu'il interprète image par image, parce qu'il y a une continuité, c'est-à-dire qu'il se souvient du début du film pour interpréter la fin de manière cohérente par rapport au début, par exemple.
Alors, en fin de compte, c'est fondé sur les sous-titres réels du film, et le moment où il va analyser une image, c'est le moment où normalement il y a un sous-titre.
D'accord.
Voilà, donc on suit à peu près le rythme. C'était pour qu'on puisse lire les sous-titres de manière
Il reconnaît les personnages, par
assez.
exemple, il est au courant
Il n'y a pas de cohérence. Non, non, il n'y a pas de cohérence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il y a pas, il pourrait, mais il n'y a pas de mémoire interne.
OK.
Voilà, il n'y a pas de mémoire. Mais ça pourrait être le cas. On pourrait l'entraîner sur le film lui-même, ce que je n'ai pas fait, mais ça pourrait être le cas. C'est plutôt une mémoire externe, c'est-à-dire que ça vient comparer les images du film avec les images qui sont taguées sur Internet, qui portent des tags, qui sont décrites par des êtres humains. Donc comment, et c'est aujourd'hui ce que fait Facebook, c'est utiliser les images que nous taguons, c'est-à-dire notre force de travail, hein, les fameux workers que nous sommes, pour pouvoir faire des descriptions automatiques, puisque quand on tague des images, ça permet d'automatiser les descriptions d'images.
Qu'est-ce que tu voudrais introduire la notion d'imagination artificielle par
On...
rapport à l'intelligence artificielle?
Oui, pour dire
Par
rapidement.
rapport à ça, juste rapidement, si c'est le cas, sinon non.
C'est un peu long,
Parce
j'en ai tellement parlé par ailleurs
que là, ça, c'est un peu toi.
Oui, en fin de compte, moi, le pari que je fais, c'est que je pense que la notion d'intelligence artificielle n'est pas très intéressante, parce qu'elle nous amène à des faux débats, parce qu'il y a, quand on parle d'intelligence, il y a une théologie implicite, qui est de l'intériorité, un mythe de l'intériorité, qui est insupportable, et que souvent l'angle mort de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence humaine, qu'on présuppose toujours comme une évidence, alors que c'est un vrai angle mort, c'est peut-être qu'un effet de surface. Et que l'imagination, c'est-à-dire le fait de produire des images, est une manière peut-être plus intéressante, en tout cas en différence avec le débat dominant, intéressante de poser le problème. Et puis aussi parce que depuis 2015, la grande évolution des réseaux récursifs de neurones, qui est un modèle qui existe depuis longtemps, depuis 57, quoi, c'est pas très nouveau, mais le fait qu'on a aujourd'hui des résultats très surprenants, à cause de la convergence avec le big data, à mon avis, c'est l'un des paramètres, a bizarrement pris plutôt la forme de production d'images. C'était Deep Dream de Google, c'était ces images. Pierre a parlé de haschich, d'hallucinations, mais justement, ces systèmes-là sont passés par des hallucinations de type psychédélique, par ce type de représentation. Donc je pense que ce n'est pas le fait du hasard qu'on ne soit pas passé par le jeu d'échecs, les fonctions logiques de rationalisation, mais par la production culturelle d'images ou de textes, etc. Un autre système de réseau récursif de neurones, je pense qu'on va avancer rapidement, c'était pour vous donner des exemples d'autres types d'infinités auxquelles on a accès et dont on peut faire l'expérience. Donc là, c'est un système, un réseau récursif de neurones nourri, parce qu'on les nourrit en fin de compte, comme des bestioles. On les nourrit et puis on a la surprise de voir le résultat. Avec des milliers de peintures, ça produit des peintures abstraites comme ça, qui sont assez crédibles comme peintures abstraites. Et ensuite, j'ai remis le résultat dans le réseau de neurones précédent, qui lui décrit les images. Et donc pour donner un titre. Donc là, c'est un oiseau dans l'eau. Donc c'est le fait qu'on peut mettre un réseau dans un réseau. Et ça entraîne un effet assez particulier. C'est comme c'est une image abstraite, de fait, il l'interprète mal. Mais on se pose la question, mais pourquoi la machine lui a donné ce titre? Et on commence, alors la qualité de l'image n'est pas très bonne, mais à se dire, bon, bah, l'eau, c'est parce qu'il y a des espèces d'ondulations. L'oiseau, il doit être, globalement, moi je pense que l'oiseau, il doit être là. Hein. Il a dû reconnaître ça comme un oiseau. Et donc, on se met. On a une espèce de nouvelle empathie. On se met à la place de la machine, en fin de compte. Comme ça fait des erreurs d'interprétation, et donc on a une expérience non humaine. C'est-à-dire qu'on a une forme d'empathie non seulement non humaine, mais non vivante. Et c'est pour ça, alors je rejoins ce que tu disais précédemment sur le retour de l'imagination de la machine sur nous, c'est qu'on va être de plus en plus, et on est déjà. Confronté au fait de se mettre à la place d'une machine. Et ce n'est pas nécessairement un mécanisme qui a été critiqué sous la forme de l'aliénation, de l'objectivation, de la rationalisation, qui est une vraie critique et qui est valable, mais qui est aussi l'ouverture d'autres choses.
Ça permet de reconsidérer aussi l'image d'un autre point de vue.
Alors, et ça permet de voir l'image d'un autre point de vue, l'interprétation d'un autre point de vue, et ça a un intérêt stratégique, c'est que ça permet de nous voir autrement. C'est-à-dire cette fameuse réflexivité de la sensibilité dont on a parlé à d'autres moments, c'est que ces dispositifs-là sont d'incroyables dispositifs de réflexivité sensible, ce qui peut-être est, pour le coup, l'une des caractéristiques que j'attribuerais à la production artistique, quoi. C'est d'avoir une perception de la perception. Voilà, de percevoir qu'on perçoit.
Peut-être laisser un petit moment pour les questions, parce qu'il faut qu'on quitte
Mais
avec
on a presque fini.
C'est quasiment fini.
D'accord. Non, c'est pour qu'on ait un petit peu
Tout à fait, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ossuaire, donc là c'est nourrir des réseaux de neurones avec des ossements humains et animaux, et ça génère des nouveaux ossements qui sont ensuite imprimés avec une imprimante 3D. Et donc on a l'ossement, pour le coup, on a un ossement physique. La notion d'ossuaire, pour passer très très rapidement, bien sûr, c'est que dans les civilisations humaines, on a cette chose qu'on appelle un ossuaire, qui est parfois le fait de mettre plusieurs ossements de plusieurs personnes dans le lieu d'habitation, sous le lieu d'habitation parfois. Et que les machines, certains logiciels aujourd'hui, se comportent à la manière de constituer des ossuaires. Et que c'est-à-dire une espèce de synthèse différentielle, c'est-à-dire qui n'est pas seulement une synthèse d'unité, mais de diversité, de tout ce que nous avons produit jusqu'à présent. Voilà, c'est-à-dire les textes, les images. Je finis très rapidement. Peut-être que ça, tu vas en parler, ce projet-là.
Oui, ouais. Donc là, c'est...
Je ne sais pas si on peut voir.
Je ne sais pas si on arrive à m'entendre. On m'entend un petit peu.
C'est l'île de Monica.
Oui, non, c'est les jardins, comment ça s'appelle les jardins?
De Royanji, à Kyoto.
Voilà, et c'est les jardins qui se caractérisent par le fait qu'on n'arrive pas à voir toutes les pierres qui se trouvent dans les jardins.
Courage.
En même temps. Et donc, en effet, la caméra vérifie tous les points de vue possibles.
Mais c'est en fin de journée.
Alors, en fin de compte, c'est un... On ne le voit pas, malheureusement, j'en suis vraiment désolé. En fin de compte, c'est que quand j'étais en résidence à la villa Kujoyama à Kyoto, donc c'est un jardin très connu, japonais, du 15e siècle, fait sûrement par un artiste plasticien sur lequel David Hockney, Cage ont travaillé. Donc j'ai eu l'autorisation de survoler ce jardin avec un drone pour le numériser, donc en prenant plein de photographies du jardin. Par comparaison, ça a fait ce qu'on appelle une photogrammétrie, c'est-à-dire un modèle 3D de ce jardin. Et ensuite, une caméra qui, en temps réel, va se déplacer dans ce jardin et qui voit tout, quoi, qui se déplace indéfiniment dans ce jardin, qui est en nuage de points. C'est pour ça qu'on le voit assez mal. Et l'idée, donc, c'est que ce jardin est très connu parce que la légende voudrait qu'il y ait 15 pierres et qu'on n'en voit jamais que 14. Une pierre étant cachée toujours par une autre, cette pierre étant toujours différente dépendant de l'endroit où on est. Bon, voilà, donc ça, c'est une installation pour notre sujet qui est d'une simplicité, d'une efficacité redoutable. Et là, l'idée, c'est qu'à un moment, peut-être qu'on verrait les 15 pierres dans ce dispositif-là, mais qu'il y aurait, alors là, pour le coup, personne pour les voir, mais parce que même si vous êtes là, vous ne le voyez pas. Donc, de fait, il y aurait peut-être que là, on vient de le voir et que personne n'a été témoin. Donc, c'est aussi pour revenir à cette idée, on avait parlé de la Chine, mais on pourrait parler du Japon, et d'autres stratégies, spatio-temporel, de relation du fini à l'infini, ou d'autres choses que ce fini à l'infini qui hante théologiquement l'Occident, et qui était un peu éprouvé par ce dispositif. On voit un petit peu les morceaux.
Pardon, Grégory, mais ouvrir aux questions, voilà. Ouvrir aux questions générales.
Aux peintures abstraites générées automatiquement, s'il y a un déplacement de l'empathie sur la machine, si je comprends bien, c'est parce que l'interprétation de figurativité qu'on essaye de projeter sur l'image, c'est celle que la machine fait habituellement à toute image que nous considérons naturellement comme figurative.
Alors, pas automatiquement, c'est le système que j'ai utilisé est un système descriptif de type figuratif. Mais effectivement, vous avez raison, il y a une espèce de parallélisme, je ne dis pas d'identité, mais de parallélisme entre l'exigence de figurativité que nous avons et celle qui a été implantée par la machine et qui opère automatiquement. Ce qui fait que ce parallélisme introduit une empathie d'un genre assez nouveau. Empathie, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ces images, malheureusement je ne les ai pas, mais de Boston Dynamics, qui est une entreprise de robotique, qui fait des espèces de chiens qu'on a tous vus. Et à un moment, si vous n'avez pas vu cette vidéo sur YouTube, il faut la regarder. Il y a un des ingénieurs de Boston Dynamics qui donne un énorme coup de latte, de coup de pied à ce robot, qui se relève imperturbablement et qui continue son chemin. Et l'innocence de cette machine fait que nous sommes plutôt de son côté que du côté humain. Et il y a des nouveaux, voilà, il y a un nouveau genre d'empathie qu'il faudrait pas trop rapidement résumer à une simple projection anthropomorphique, qui fait que l'être humain, que ce soit pour son extinction ou que ce soit pour le non-humain, peut être en contact avec quelque chose qu'il n'est pas. Et c'est peut-être aussi une manière de sortir de l'aspect théologique dont, qui a été élaboré un mot. C'est peut-être aussi une autre voie.
Pour reconnaître aussi que le concept humain est un concept relatif en soi.
Ouais, et puis qu'il est, il reste profondément ancré dans la théologie.
Susanna ?
Oui, alors merci, c'est vraiment très chouette comme série d'œuvres. Alors, je m'interrogeais sur la position du spectateur et de critique de l'art dedans, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de l'art qui n'a pas besoin de spectateur, ou le spectateur n'a pas besoin de voir ces images. D'abord parce qu'il y en a infiniment, on ne peut pas, et aussi parce que dans certains cas, ils sont assez insignifiants. Enfin, je pense à surtout à cette musique, où le morceau a son nom.
Tout à fait.
Inintéressant comme musique, mais par contre, le dispositif est très intéressant. Que fait le spectateur? Et est-ce qu'on pourrait imaginer, alors, en continuation de ça, une espèce de critique d'art machinique?
Alors, il y a déjà des tentatives de curatoria automatisée qui marchent assez bien, d'ailleurs, qui sont assez efficaces. Donc, les commissaires, qui est assez efficace. Il y a une recherche actuellement à Dublin, là, à l'Université de Dublin, sur ce sujet du commissariat automatisé. Quant à la critique d'art automatisée, ça marche assez bien, parce que c'est... en fin de compte, comme c'est un genre très académique et très typifié au niveau du langage, c'est assez facile. Quoi, générer de la philosophie, de la critique d'art, c'est assez facile. Il y avait le postmodern generator qui fonctionne avec un mélange de Marx, Althusser, Derrida, et ça marche en plein. Bon. Parce que tout simplement, ça ne dépend pas que du texte, ça dépend aussi de l'accord que nous avons avec cela. C'est relationnel, il n'y a pas de sens en soi, c'est relationnel. Oui, c'est indifférent. Mais en quoi est-ce très différent des modes de production et de perception aujourd'hui en dehors du monde de l'art? C'est un peu la même chose. Donc je dirais que ce n'est pas plus intéressant, mais ce n'est pas moins intéressant que ce qui se passe par ailleurs. Ce qui déjà est un vrai défi pour l'art. Déjà d'arriver à ce niveau-là, moi, pour moi, c'est déjà beaucoup et largement suffisant.
Et surtout parce que ce que fait en fait le spectateur ou le critique, c'est de regarder le dispositif. Ce n'est pas ce que ça le dispositif produit, mais le dispositif lui-même. Et en cela...
Je ne pourrais pas distinguer, j'aurais beaucoup de mal, mais là, ça nous entraînerait vers des discussions un peu trop complexes. J'aurais vraiment du mal à distinguer le dispositif de l'œuvre ou de... Je ne vois pas très bien comment on pourrait distinguer les deux, mais j'ai vraiment du mal avec... Pour moi, ce qu'on voit, c'est ce qu'on expérimente. L'expérience n'est jamais séparée, n'est jamais quelque chose de séparé, d'isolé, c'est toujours un contexte, donc c'est un dispositif.
En question de Bruno.
Donc si le dispositif est intéressant, c'est...
En prolongement de ce que disait Sana, alors je pense, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un pourra me corriger si je me trompe, mais il me semble que Rochlitz développe la notion d'habitacle de l'œuvre, c'est ça que je ne sais pas, voilà, qui pourrait être intéressante là-dessus. Moi, je suis assez d'accord, justement. Alors, je n'ai pas envie de distinguer l'œuvre du dispositif, mais je trouve que ces objets-là, ce ne sont pas des œuvres, ce sont des œuvres. Ce sont des habitacles. C'est justement ce par quoi l'œuvre se montre, mais ce n'est pas l'œuvre. Et que ce qui fait œuvre serait justement le processus. Donc je n'ai pas envie de distinguer, j'ai envie au contraire de déplacer l'œuvre. Et on se met en revanche que la posture spectatorielle a presque besoin de l'illusion que les objets font œuvre.
Alors.
Donc c'est comme ça que je vérifie les choses pour essayer de départir.
Je pense qu'il y a un biais. On va revenir peut-être à une image précédente. Ah, on ne peut pas. Vous vous souvenez de l'image abstraite avec l'oiseau dans l'eau? En fin de compte, vous dites que ça ne fait pas œuvre parce que j'ai fait une erreur dans ma présentation. Je vous ai dit que c'était produit par une machine. Je pense que vous auriez... En fin de compte, il se trouve que ce tableau, j'ai fait une expérience. Il y a eu un nouveau procédé d'impression qu'on appelle l'impression 2.5. C'est une impression pour les tableaux de très très grande qualité, pour faire des productions de très haute qualité. C'est des peintures, mais en relief, qui sont en fin de compte imprimées. Donc j'ai imprimé ce tableau en relief, donc ça faisait vraiment comme une peinture classique. Je l'ai présenté à des gens sans dire que c'était produit par une machine. Bon. En fin de compte, les gens estimaient que ça avait une qualité plastique. Bon. De la même manière, l'ossuaire, les sculptures, à mon avis, ont une qualité plastique intrinsèque. Mais c'est ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est le fait que ce soit une machine, sans comprendre qu'une machine aussi est dans un dispositif anthropologique, que l'humain est lié aussi à la machine, que tout ça est en feedback loop, ça fait qu'on dénie le statut d'œuvre, c'est-à-dire qu'on dénie le statut d'autonomie.
Non. Attention là.
Juste comme expérience de spectatrice que j'ai été tout à l'heure, alors j'ai l'impression que c'est plus difficile de dire que c'est. Enfin, pour la table où on risquait des œuvres plastiques, ça pourrait passer pour une œuvre pour moi. Par contre, pas pour la musique. Alors je me demande s'il n'y avait pas une.
Ah. Alors pour la musique. C'est une question, mais malgré tout, parce qu'il y a une voix de synthèse, donc on reconnaît immédiatement la patte machinique, mais par contre, je pense que concernant la musique, on n'est pas très très loin de quelque chose d'assez convaincant pour le genre visé qui est de la musique pop. Pour le genre visé. Après, on pourrait dénier à la musique pop toute qualité, ce que je ne ferais absolument pas, ça me semblerait une erreur, une faute de goût sans nom. Mais si on accepte la légitimité de la musique pop comme genre musical intéressant, alors dans ce genre visé, cette musique est assez valable. Une anecdote pour essayer de vous prouver ce propos, hein, une preuve factuelle, expérimentale. Jean-Pierre Balpe, que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui a été longtemps enseignant à Paris 8, poète, l'un des premiers à faire des générateurs automatiques de textes. Dans les années 80, à la fin des années 80, il avait déjà ses générateurs de texte. Il a fait un générateur de romans policiers et il a envoyé 3 nouvelles policières à un éditeur sans lui dire qu'elles avaient été générées. L'éditeur lui a dit « C'est très intéressant, on aimerait vraiment vous publier. » Le lendemain, il lui a envoyé un paquet comme ça de nouvelles, 800 nouvelles. Plus de nouvelles de l'éditeur qui sentait qu'il y avait un problème. Donc, ce qui est très intéressant dans votre propos, c'est que vous affectez les qualités à l'objet, alors que c'est la qualité d'une relation en art. C'est pas la qualité intrinsèque d'un objet. Jamais. C'est toujours la qualité d'une relation. Et pas seulement en art, d'ailleurs, semble-t-il.
Bruno,
je vais vous préciser, je ne sais pas si on a la même position, c'est pas la question, on a rigueur, mais d'une part, je ne veux pas nier la qualité artistique de produit, de ce que tu fais, en tous les cas, mais de ce que tu fais faire à la machine. Déjà, c'est quand même deux choses, à mon sens, distinctes. C'est toi, tu es l'artiste. C'est pas la manière qui est l'artiste. Donc quand tu signes les œuvres. Pour le dire autrement, prenons Danto, Transfiguration du banal. Moi, je veux bien imaginer 2 hangars, comme le fait Danto. Dans un hangar, il y a une peinture d'un oiseau sur un lac réalisé par je ne sais qui la peinture, ou qu'il a imprimé, si vous voulez, en 52, soit. Et à côté, ta production artistique. Moi, ce que je veux en tous les cas dire, c'est que ce ne sont pas les mêmes œuvres.
Oui.
Moi, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en tous les cas, la musique pop générée par. Qui aurait pu ne pas être générée par ordinateur, n'est pas la même œuvre que la musique pop générée par ordinateur à partir d'une volonté.